Dire, comme on l'a noté plus haut, au psaume 144, que Dieu se loue lui-même dans les psaumes, ne peut se comprendre si l'on ignore la place que tient dans la pensée d'Augustin la perception du mystère du Christ total. Cette conception christologique et ecclésiologique qu'il trouve chez saint Paul voit dans le Christ la tête d'un corps dont les membres sont constitués par l'Église. Vous avez des références bibliques, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 5, où Paul a développé cette perspective. Cette théologie du Christ total domine toute l'exégèse augustinienne du psautier. Celui-ci est tout entier prière du Christ, qui s'exprime tantôt en tant que tête, il parle alors en son nom, et tantôt en tant que membre, il parle en notre nom. Vous voyez cette distinction? L'unité du corps ecclésial et son union avec la tête sont fréquemment affirmées dans les Enerrationes. Ainsi, par exemple, c'est notre voix que nous devons reconnaître dans ce psaume. Je ne dis pas la nôtre en pensant seulement à ceux qui sont ici présents, mais la nôtre à nous tous qui sommes dans le monde entier. Et pour que vous sachiez qu'il s'agit de notre voix, le psalmiste parle ici comme un seul homme, car dans le Christ, nous sommes un seul homme. Vous voyez cette perspective, c'est intéressant de creuser un petit peu cela pour rentrer dans cette prière biblique. Il nous dit, c'est la prière du corps tout entier. Et il nous dit aussi, à certains moments, le Christ s'y exprime en tant que tête, à d'autres moments, le Christ s'y exprime en parlant en notre nom, nous qui sommes ses membres. Mais c'est notre voix que nous devons reconnaître dans les psaumes. Ce qui veut dire que ça confère au psaume une valeur universelle aussi, évidemment. C'est pour ça que beaucoup de gens sont très attachés à la prière des psaumes et très à l'aise dans la prière des psaumes. La louange du chrétien est donc située en Dieu, ou mieux en Christ. En Christ, oui, c'est intéressant de se dire qu'au fond, depuis Jésus, c'est intéressant de relire le psautier à la lumière du Christ. Comment est-ce que Jésus à prier les psaumes. Il y a un dominicain qui s'appelle le père Vesco, Vesco, qui a écrit deux énormes briques sur les psaumes, qui font chacun 500 pages, je crois. Bon, c'est pas pour nous, on a autre chose à faire. Et puis un livre plus petit qui s'appelle, enfin, sur Jésus et les psaumes, justement, où il essaye de montrer comment les psaumes doivent être rapportés au Christ et comment le Christ les a priés. La louange du chrétien est située en Christ, exprimant cette adoption filiale qu'il fait sienne et ratifie en parlant de la voix même du Seigneur. Une citation, En Dieu je louerai mes paroles, en Dieu je louerai mes paroles, psaume 55. Si c'est en Dieu, comment les paroles sont-elles miennes? Elles sont à la fois en Dieu et miennes. En Dieu parce que c'est de lui-même que je les tiens. Miennes parce que je les ai reçues. Lui-même me les a données, a voulu qu'elles fussent miennes par l'amour que je porte à celui de qui elles sont. Voilà, toujours cette perspective que la louange nous est donnée. Si la prière des membres encore livrés aux tribulations d'ici-bas s'exprime le plus souvent sous la forme de la supplication ou du repentir. La louange, elle, convient particulièrement au Christ tête, déjà glorifié à la droite du Père. En s'y associant, le chrétien anticipe donc sa condition future, qui n'est autre que sa condition véritable, sa patrie vers laquelle il est encore en chemin. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres, psaume 33. Puisque le Christ le dit, que le chrétien le dise aussi. Vous voyez là, le réflexe tout de suite d'Augustin, le Christ le dit. Ce verset, c'est le Christ qui parle. Puisque le Christ le dit, que le chrétien le dise aussi. Parce que le chrétien fait aussi partie du corps du Christ et que le Christ s'est fait homme. Pour que celui qui dit « Je bénirai le Seigneur » puisse devenir un ange. Bon, vaste programme. Voilà, la prière des psaumes, prière de louange, comme louange du Christ total, du Christ et de l'Église. Encore une autre réflexion maintenant sur l'importance de l'humilité pour pouvoir entrer dans la louange. La louange des membres ne saurait cependant s'unir de manière authentique à celle de la tête si elle n'était empreinte des sentiments qui sont dans le Christ Jésus, Philippiens 2. C'est pourquoi la louange véritable est celle de l'homme humble. La louange véritable est celle de l'homme humble. Que l'humilité doive habiter le cœur de celui qui adresse à Dieu sa supplication, qui confesse ses fautes, ou qui crie sa souffrance. Donc saint Augustin balaye l'ensemble du spectre des prières possibles. Voilà qui va de soi. Et citation, nous confessons nos fautes devant toi et nous invoquons ton nom, psaume 74. N'essaie pas d'invoquer avant d'avoir confessé. Ce que tu invoques ne vient pas chez l'orgueilleux. Il a beau être le Très-Haut, on ne l'atteint pas en s'élevant. Pour atteindre ce qui est élevé, il nous faut nous dresser sur la pointe des pieds. Et si nous n'y arrivons pas, nous utilisons une échelle et des échafaudages afin d'atteindre le sommet. Pour Dieu, c'est le contraire, il est très élevé et il n'est accessible qu'aux humbles, qu'à ceux qui s'abaissent. Caractéristique au début de la citation, caractéristique d'Augustin, il regarde vraiment les mots des psaumes. Dans cette simple phrase, nous confessons nos fautes devant toi et nous invoquons ton nom. Voilà, il voit deux mots, confesser, invoquer, et puis il en tire cette petite règle, n'essaie pas d'invoquer avant d'avoir confessé. Donc, rentre dans l'humilité pour pouvoir t'approcher de Dieu. Car celui que tu invoques ne peut pas venir chez toi si tu es orgueilleux. Il ne vient pas chez l'orgueilleux. On ne l'atteint pas en s'élevant. Même si c'est moins évident, il est tout aussi vrai que la louange véritable ne peut venir, elle aussi, que d'un cœur humble. Quel est donc, demande Augustin, celui qui bénit le Seigneur en tout temps, sinon celui qui est humble de cœur ? Réflexion à propos du psaume 33. Celui-là, en effet, est véritablement à l'image de notre Seigneur qui nous a enseigné l'humilité par son corps et son sang. Et l'humble est celui qui ne s'attribue pas le mérite du bien qu'il fait, mais le rend à Dieu qui en est le véritable auteur. Pourquoi donc l'homme bénit-il le Seigneur en tout temps ? Parce qu'il est humble. Qu'est-ce qu'être humble ? C'est ne pas vouloir être loué en soi-même. C'est agréable, ça chatouille, d'être loué en soi-même, mais voilà. Celui qui veut être loué en lui-même est un orgueilleux. L'humble est celui qui n'est pas orgueilleux. Tu veux donc ne pas être orgueilleux ? Pour pouvoir être humble, répète les paroles qui viennent d'être dites. En Dieu, mon âme sera louée. Que les doux m'entendent et soient en fête, se réjouissent. Car ceux qui ne veulent pas être loués en Dieu ne sont pas doux. Ils sont farouches, âpres, altiers et orgueilleux. Ben oui, on comprend mieux, effectivement, en lisant cette citation, l'importance de l'humilité pour rentrer dans la vraie prière, dans la vraie louange, dans la vraie relation à Dieu. Tu veux donc ne pas être orgueilleux, pour pouvoir être humble, répète les paroles « En Dieu, mon âme sera louée ». Ainsi donc, la louange est par excellence la prière des pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Ce sont les humbles, ceux qui louent Dieu quand ils font quelque chose bien et s'accusent lorsqu'ils font quelque chose mal. L'importance d'être dans la vérité. On ne peut louer Dieu qu'en vérité. Sinon, on est en porte-à-faux.